coup, il nous reste un petit quart d'heure pour prendre des questions.
Oui, alors j'ai une petite question pour Nicolas Renaï. Alors déjà, j'étais vraiment contente d'avoir des nouvelles de Sylvain et je trouvais que c'était chouette en fait de pouvoir suivre un enquêté 10 ans après. Ce que j'ai peut-être pas vraiment saisi, c'est ce qui avait propulsé en fait cette transformation individuelle de Sylvain, ou alors si on ne parle pas vraiment de transformation, les nouvelles pratiques mises en œuvre qui semblent traduire un nouveau rapport aux normes de genre auxquelles il se pliait apparemment très bien jusque-là. Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné il arrête de boire, il refuse la gamelle, que sa gamelle soit préparée par sa femme, etc., etc.
Vas-y. Bon. C'est compliqué de rentrer dans le détail, d'une part, parce que ça peut être très long, puis je ne suis pas tout seul à avoir des questions, et puis d'autre part, parce que ça rentre vraiment dans l'intimité. Ce que je n'ai pas du tout évoqué là, c'est la question de la violence conjugale, qui était présente ponctuellement dans le couple. Ponctuellement, c'est-à-dire, en fait, à chaque fois, c'était le même schéma qui se reproduisait, c'est-à-dire qu'une fois que Sylvain avait perdu la face devant ses copains ou au café, etc., il suffisait que Suzanne lui fasse une remarque de travers, enfin, qu'il prenait de travers en rentrant à la maison pour que ça retombe sur elle. Et en fait, un matin, il s'est réveillé. La maison était détruite. Il y avait tout cassé à l'intérieur. Sa femme n'était pas là. Et c'est les enfants qui lui ont dit, qui lui ont expliqué ce qui s'était passé. Et donc, ce jour-là, ça a été un moment en choc où là, il a dit, OK, c'est bon, j'arrête mes conneries. Il a appelé les alcooliques anonymes. Il a commencé des rencontres, il a eu un suivi psychologique, etc. Et il a commencé à vraiment évoluer. Après, c'était aussi une forme de saturation sur... Il était complètement épuisé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était tout le temps on dit que les ouvriers sont du côté du fer, mais lui, il était tout le temps du côté du fer, quoi. C'est-à-dire qu'il bossait la journée, il bossait le soir. Quand il bossait pas, il faisait la fête. Donc voilà, c'était une forme d'épuisement. Et cet épisode-là, ultime, a fait qu'il s'est fait sa propre révolution personnelle.
Est-ce qu'il y a une autre question ou d'autres questions au pluriel ? C'est la fin de la journée, mais... Moi, j'avais une question un peu provocatrice, mais après, on n'a pas forcément de réponse. Mais est-ce que dans vos terrains et vos travaux, chacune, vous voyez des spécificités vraiment à la période de la jeunesse ? Si oui, lesquelles ? Par rapport aux autres, enfin, dans une perspective âge de la vie, en fait. Est-ce que, à force de travailler sur la jeunesse, sans forcément toujours la comparer aux autres périodes de la vie, on n'a pas tendance à l'essentialiser et à scier un peu la branche sur laquelle on travaille ? Ou au contraire, est-ce qu'il y a vraiment... Enfin voilà. Après, c'est plus programmatique qu'autre chose parce qu'on n'a pas forcément... Vous n'avez pas forcément travaillé sur les autres périodes, mais fallait bien trouver une dernière question qui mette le débat et qui pousse jusqu'au bout de la soirée.
Je peux répondre, mais
oui, oui.
Faut laisser la parole.
On est hyper poli.
Ouais. Je sais pas, je vais pas faire une réponse exhaustive parce que je suis au moins aussi fatiguée que la moyenne des gens dans cette salle, donc ça va devenir assez vite pathétique. Mais y a la question de la, enfin en tout cas en ce qui, ce qui a trait à mes propres questions de recherche, la question de la moralité sexuelle des filles qui se posent quand même spécifiquement à cet âge-là par rapport à l'enfance et par rapport ensuite à l'âge adulte, qui se pose tout le temps, à mon avis, même dans la toute petite enfance, mais qui se pose un peu de façon spécifique du fait de l'entrée dans la sexualité. Moi, ce que j'ai observé de très spécifique, ce qui est d'ailleurs dans un premier temps une observation ethnographique, c'est que les jeunes n'habitent pas chez eux, enfin, sauf quand ils finissent par s'installer. Il y en a qui s'installent... tôt en couple, mais très souvent ils vivent chez leurs parents. Et le fait de ne pas avoir de lieu à eux, d'abord fait qu'ils se font envahir par l'enquêtrice beaucoup plus facilement, parce qu'ils n'ont pas de rituel de mise à distance, le café, tous les trucs. On entre dans la chambre directement, puisque c'est le lieu dans lequel ils habitent. Et en fait, ça a des effets en permanence dans leur vie. Enfin, le fait d'être chez les parents, ça crée des tensions très très fortes. Ça crée des tensions autour de la sexualité des filles fortement. Autour de la contraception en milieu rural notamment. Je dis tout en vrac, hein, je suis incapable de faire une réponse construite. Donc voilà, ça c'est une spécificité. N'hésitez surtout pas à ajouter des spécificités, puis j'en rajouterai si ça vient. Mais... L'insulte, je pense que le langage, il y a un rapport des jeunes au langage, à la provocation qui est quand même spécifique, qui est situé en termes de classe dans l'espace social, mais qui est quand même lié aussi à des formes de... Enfin, il y a des formes langagières qui sont quand même propres à... Ou en tout cas qui sont plus moins inhibées dans la jeunesse et qui peuvent être des enjeux de sociabilité fort. Voilà, je vous en prie.
Ouais. Non, c'est une question très, très pertinente. J'ai pas mal réfléchi sur cette question. Je dirais, de manière générale, il y a cette idée de l'expérimentation, comme on le disait ce matin Michel Bozon, cette idée de la jeunesse sexuelle, où on peut expérimenter une sexualité qui, après, semble pouvoir changer lorsqu'on rentre dans les cadres conjugal. Moi, j'ai essayé, dans mon travail de thèse, j'ai essayé de saisir un peu la spécificité de la phase de la transition vers l'âge adulte dans le processus de l'identification des genres et construction des conduites sexuelles. Et j'ai remarqué comme la construction d'une sorte de temporalité sexuelle. Moi, j'ai essayé de les traiter comme ça. Une plutôt conjugale, l'autre plutôt juvénile. Et je l'ai vu autant dans les... Bon, on parle toujours des récits, donc au niveau pratique, après, on ne sait jamais si c'est vraiment ça, mais au niveau des pratiques employées dans les relations sexuelles, il y a tout un ensemble de pratiques qui semblent permises lorsqu'il s'agit d'une sexualité juvénile qui n'implique pas la figure de la femme idéale. Bon, là, il y a tous les aspects qui concernent la morale religieuse qui sont pris en compte par mes interviewés. Et aussi, même au niveau rhétorique, le fait de considérer une aventure en dehors du cadre conjugal comme un retour à la jeunesse chez des personnes que j'ai interviewées qui étaient déjà mariées et qui, peut-être, trompent leur femme en disant « Pour moi, c'était un peu un retour à la jeunesse. C'était les moyens pour vivre la jeunesse que je n'ai pas vécue car je me suis marié trop tôt. » Et pareillement, pour la temporalité juvénile, de la sexualité juvénile, bon, l'idée de pouvoir expérimenter différemment, de pouvoir dire, même au niveau des respects de la partenaire, mais bon, là, on rentre dans un sujet très large que peut-être ce n'est pas le cas d'aborder là, dans l'espace des 5 minutes, mais voilà, de manière générale, je dirais les tentatives même de la part des interviewés de construire deux temporalités différentes de l'expérience sexuelle à la jeunesse et à l'âge adulte, et donc d'interpréter même les expériences sexuelles vécues au moment que je les rencontrais, en pensant aux relations sexuelles vécues avec les partenaires actuels, mais aussi en perspective future lorsque cette sexualité deviendra une sexualité conjugale. Je sais
pas si... Oui, rapidement, en fait, je vais reprendre le mot que tu as utilisé au début, c'est-à-dire expérimentation, en prenant toujours en répondant de manière empirique à partir du cas de Sylvain. C'est-à-dire qu'il a beaucoup expérimenté jeune, et en même temps, il a beaucoup reproduit. Enfin, je pense qu'il pourrait donner cette réponse-là. C'est-à-dire qu'il a reproduit un schéma. Suzanne, à l'époque, lui disait « Mais il a 40 ans de retard », elle disait de lui. Et en fait, il était complètement pris là-dedans. Et il a mis des années à s'ouvrir à d'autres modèles, quoi. Alors, ça va être l'ensemble des rencontres qu'il a pu faire quand il travaillait au noir pour des résidences secondaires suisses, etc. C'est quelqu'un qui est assez curieux et relativement, malgré son faible capital culturel et social, relativement sociable, y compris en milieu différent du sien, et y compris dans la relation à l'enquêteur. C'est-à-dire que, alors, faut pas du tout surévaluer l'impact qu'on peut avoir auprès des enquêtés qu'on rencontre très ponctuellement, même quand on les voit sur 20 ans. Néanmoins, la première fois qu'il m'a vu changer une de mes filles devant lui, les bras lui en sont tombés comme si j'étais en train de porter la lune, quoi. Vraiment, c'était quelque chose qui n'était pas dans son monde, qui n'était pas du domaine de l'imaginable. Le fait que 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, il se mette à ne travailler qu'au noir pour pouvoir garder ses enfants une semaine sur deux, c'était complètement sidérant. Et entre-temps, il y a eu tout un chemin où il a rencontré d'autres personnes, où il a allé au bout de son expérimentation, quoi.
merci. Oui. Dernière question ?
Merci. Je voudrais poser une question au dernier communicant sur la question de la sexualité chez les jeunes maghrébins, marocains, entre parenthèses. Est-ce que vous avez posé la question de la chirurgie de l'hymen ? C'est une stratégie qui est vraiment très répandue en ce moment pour réparer cette virginité sur un plan...
J'ai travaillé avec des jeunes hommes, donc je n'ai pas posé. J'ai pas interviewé des jeunes femmes, donc je n'ai pas posé la question directement à des possibles personnes impliquées directement. C'est un sujet qui était souvent évoqué de la part de mes interviewés, mais sans en avoir une expérience directe. Donc, je vous dirais des choses qui n'apportent pas beaucoup à une réflexion, disons, un peu plus scientifique.
Non, parce que c'est une stratégie que le couple... Oui, oui, oui. C'est-à-dire le couple, c'est pour faire face à ce regard et pour corriger aussi cette réputation qu'ils font recours, garçons et filles. C'est-à-dire avec la complicité du garçon, il procède à... ce comportement de chirurgie de l'hymen.
Juste, c'est tout simplement un sujet que je n'ai pas pu traiter directement.
La représentation de ça, c'est-à-dire ces jeunes que vous avez interviewés, qu'est-ce qu'ils pensent ?
S'ils n'en parlent pas, ils n'en parlent pas de faire remonter. Hein.
Tout simplement, ils n'en parlent pas. Je vous dirai rien en plus de ce que vous... Vous savez, vous pouvez déjà imaginer.
Merci.
Plus de questions ? Allez, une ultime.
Merci. Je voulais poser une question à Isabelle Claire. Vous disiez, en répondant à la dernière question qui était posée, que... les insultes étaient peut-être liées à une période de la vie, et justement vous donniez l'élément intéressant de jeunes qui habitent encore chez leurs parents et qui sont peut-être entre l'école et leurs parents, et donc du coup c'est le seul interstice qu'ils ont, ou, enfin je ne sais pas, et je voulais savoir si vous aviez observé qu'à un moment ces pratiques d'insultes s'arrêtaient ou changeaient. Est-ce que ça correspondait à la fin du groupe, la fin du groupe, ou à un événement, à des événements particuliers ou des changements, comme on était sur la question des spécificités de la jeunesse?
Alors le problème, c'est que moi, une fois qu'ils deviennent vieux, je les vois plus, donc c'est-à-dire après 20 ans, quoi, Donc je ne sais pas s'ils arrêtent. Enfin, je ne pense pas qu'ils arrêtent forcément. Après, je pense que leur rapport au langage évolue en effet, mais sur les terrains que j'ai faits, la pratique... Après, tout le monde ne passe pas son temps à s'insulter. Enfin, ce n'est pas non plus... mais c'est très présent et ça ne... Non, et puis l'insulte s'adresse à des gens, mais c'est des façons aussi de caractériser, par exemple, quelque chose il faut que je finisse mes phrases, les objets, y compris les choses, les objets non humains. Par exemple, un truc qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivée en milieu rural, mais qui était lié, je pense, au fait que les jeunes de cité que j'avais enquêtés se contrôlaient plus probablement en ma présence que les jeunes ruraux qui politisaient beaucoup moins notre relation, pour plein de raisons assez évidentes, et et qui parlaient très souvent de canapèche. Ça, c'est pas une canapèche de PD. Bon, je dis la canapèche parce que c'est le truc... c'est pas une canapèche de PD, c'est pas un scooter de PD, c'est pas une... qui utilisait énormément l'insulte homophobe pour caractériser énormément de choses dans leur vie, et que j'ai entendu des adultes aussi prononcer, mais je pense beaucoup moins abondamment que les jeunes qui en rajoutaient peut-être aussi en ma présence, parce que ça fait des choses, mais je peux pas répondre à votre question en fait, parce que je ne connais que... Enfin, j'exagère, mais je veux dire, il n'y a que je regarde comme ça sur ces questions-là, vraiment. Donc,
merci beaucoup pour tous ces développements. Et nous nous retrouvons, quoi qu'il en soit, demain à 9h pour la plupart d'entre vous.